Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech ne s'arrête pas tout de suite, les amis. On a encore une demi-heure à passer ensemble avec ce soir Frédéric Krebs, Tristan Nitto et Frédéric Simotel. Avant de repartir dans l'automobile, j'aimerais qu'on aborde rapidement Samsung aussi, puisqu'on était dans la partie, on va dire, hardware avec l'Apple Watch. Samsung qui, alors c'est une news qui est tombée aujourd'hui, prévoirait évidemment de lancer un casque de réalité mixte, un peu comme Apple avec le Vision Pro. Ça, c'est un premier, on va dire, première surprise dans un paquet cadeau, même s'il a déjà été plus ou moins présenté lors des précédentes, on va dire, conférences de presse de Samsung. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait aussi dans un deuxième carton une paire de lunettes connectées. Une paire de lunettes connectées assez évoluée, quand même, puisque ce serait l'une des premières sur lesquelles on aurait un affichage qui se projetterait sur les verres. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez les Ray-Ban Meta, bah vous avez du son, vous avez une caméra, mais vous n'avez pas d'informations additionnelles qui s'affichent. Et là, Samsung, ça ne m'étonne pas, parce qu'ils ont un tel savoir-faire en termes d'affichage, ont dû brainstormer là-dessus, et ont trouvé un moyen de projeter des informations sur les lunettes. C'est cool. Qui veut réagir là-dessus ?
Les lunettes, c'est tout le monde se dit, hein, quand est-ce que les lunettes remplaceront un jour le téléphone, et Samsung était obligé d'être sur ce marché parce qu'on les voyait pas du tout arriver. Alors la mèche avait été un peu vendue par le patron de Qualcomm, hein, qui avait déjà dit mais on est en train de travailler sur Samsung, donc ça a déclenché la suite. Mais c'est vrai que Samsung, ils sont très forts en miniaturisation des composants, ils maîtrisent toute la chaîne aussi parce qu'ils font les composants, donc ça aussi c'est quand même un atout dans les coûts de R&D. Je pense que en plus toutes ces technos, ils vont les réutiliser dans leur télé, ils savent réutiliser ces technos-là dans d'autres produits, et ça va être ils vont encore réduire le coût de la R&D, donc c'est là où ils sont très forts. Après, comme tu le dis, hein, je crois que c'est ça, c'est info directement sur les verres, il y aura des caméras, capteurs de mouvement, enfin il y aura plein de choses qu'on imagine sur les lunettes, et des lunettes qui ressemblent, alors il y a à la fois ce casque VR AR, et il y aurait des lunettes qui ressembleraient un peu au Ray-Ban Meta qu'on commence à voir quand même circuler sur le.
Évidemment, il n'y aura plus de boutons, tout serait par les gestes. Bon, là, ils ont copié un petit peu sur Apple, hein, puisque c'est le cas. Elle devrait être fine et légère et ressembler énormément à des paires de lunettes traditionnelles. Donc, on ne serait pas surchargé avec des lunettes à la Spectacles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce réseau social qui s'appelle Snapchat ou qui était un peu grosse quand même. Ouais. Donc là, ils seraient arrivés à miniaturiser tout ça. Fred.
Ouais, donc là la question se pose toujours, là, pour quel type d'usage, hein, encore une fois, on est toujours un peu coincé, hein, pour dès qu'on arrive sur les casques de réalité virtuelle, les casques de réalité augmentée. Moi, je suis encore un peu sur ma faim sur les usages, et j'ai l'impression que pour l'instant le public est pas forcément là. Et il faut pas oublier non plus que Samsung avait déjà lancé un casque de réalité virtuelle. Il y a quelques années, ils ont vendu, je crois, 5 millions d'exemplaires de leur Gear VR, je crois. Ils ont arrêté la production en 2020. Donc, c'est juste un retour aux sources, hein, avec ce nouveau produit.
Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ça.
Ouais.
C'était un masque qu'on achetait en plastique. Et dedans, on insérait le téléphone comme ça. Comme ça. Il y avait des loupes horribles qui déformaient, en fait, le bousin, là. Ouais. Et on se retrouvait avec un truc, on vous restait 5 minutes, vous aviez mal à la tête. Donc, c'était vraiment les débuts d'AVR. Mais ça, c'était il y a longtemps. Hein.
Ouais, mais c'était avant 2020.
Donc, et on se souvient de cette conf de presse. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image qui était incroyable. Et moi, j'y étais. On était au Mobile World Congress de Barcelone. Samsung présente son masque de VR. Et le patron dit, regardez sous votre siège, les gars, vous en avez un. Et là, on se baisse. On avait le masque. On le prend, on le chausse. Et pendant qu'on le chausse, là, Mark Zuckerberg rentre sur scène. Vous vous souvenez de cette photo?
Très bien, ouais.
Incroyable.
Flippante quand même, hein.
Mais totalement flippante. Totalement flippante. Et voilà. Mais bon, on referme la parenthèse. Ça, c'était il y a 10 ans, je dirais.
Voilà, et voilà. Donc, quelles applications, messieurs? Je vous pose la question aussi.
Eh bien, moi, je me dis qu'en fait, à un moment, je pense que beaucoup de gens sont prêts à sauter le pas. Et on en a marre de se trimballer avec un téléphone dans la main qui sert à tout et qui occupe les deux mains. Et en plus, avec des écouteurs supplémentaires qui font stocker dans sa poche, c'est pas pratique. en fait. T'en as plein partout, quoi. Moi, si je mets des pantalons cargo, c'est aussi pour ça, tu vois. C'est parce que j'ai toujours besoin d'avoir une poche en plus pour mettre les clés, pour pas qu'elles soient dans la même poche que les écouteurs pour pas les rayer. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et là, bah, en fait, avec les lunettes, t'as les écouteurs. Tu as l'appareil photo,
voire appareil auditif.
Exactement.
Tu dis ça à Tristan parce que.
Non, mais moi, j'ai des problèmes d'audition. Et donc, ouais. Ah ouais.
Non, c'est pas pour ça.
Non, parce qu'on parle. Oui, mais t'es pas tout le temps en train d'avoir des. Ben, j'ai dit, mais attends, les gens aujourd'hui qui ont des appareils auditifs, ils sont un peu isolés parce que ça rentre dans l'oreille. Là, t'as un truc qui passe derrière, intra-osseux, qui sont des lunettes. Souvent, les gens qui ont des appareils auditifs ont souvent des lunettes aussi parce que voilà, c'est l'âge qui passe. Et du coup, voilà, là, il y a intérêt.
Donc là, je pense qu'en termes d'interface, tu vois, ça pourrait changer pas mal de trucs. On utiliserait moins son téléphone. On pourrait avoir du son, on pourrait avoir de l'image, mais additionnelle, tu vois, pour trouver. Non, mais quand tu vois que tu cherches ton chemin dans la rue, en fait, c'est nul d'avoir son téléphone à la main.
Non, mais c'est clair.
Alors que si tu vois flèche à droite ou une flèche à gauche, tu sais que c'est la deuxième à gauche qui
prend, etc. Ça se libère les deux mains.
Mais c'est exactement. Ça qui est top. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même pas mal d'usages. Après, ça dépend comment c'est implémenté techniquement. Est-ce que c'est pas un machin qui fait 600 grammes et que t'as mal aux oreilles au bout de 20 minutes? J'en sais rien. Tu vois, mais je pense que il y a un potentiel. Je pense que pour déplacer, disrupter le smartphone ou en complément du smartphone, je pense qu'il y a un truc à faire.
Tristan, juste une question. Tu ne portes pas de lunettes, toi? Ah oui, c'est vrai, mais pas tout le temps.
Mais non, pas tout le temps, non.
C'est pour lire, en fait.
Oui.
Mais est-ce que tu serais prêt à porter des lunettes tout le temps? Parce que c'est ça aussi la question. Je ne sais pas combien de millions, de milliards de gens sur Terre qui ne portent pas de lunettes, mais il y en a quand même pas mal. Et eux, ça va loin. Moi, ça ne me pose pas de problème. Et toi, tu ne portes pas de lunettes. Est-ce que tu serais prêt à porter des lunettes qui ne serviraient pas à améliorer ta vue, mais à apporter des fonctionnalités supplémentaires?
Au quotidien, dans la rue, je suis avec mes lunettes Ray-Ban maintenant. Parce que j'écoute de la musique, je réponds à mes appels techniques. Quand je suis en vélo, savoir la destination à prendre, je réponds à mes SMS.
Donc il y a du sens.
Moi, je commence.
Mais tu les mettrais. Tu les mettrais tout le temps? Parce que là, tu les mets parce que tu vas prendre ton vélo. Mais est-ce que tu les garderais après sur le nez quand tu es au bureau, quand tu es en interview avec des gens? C'est ça aussi la question.
Ouais, on est Fred. Plus en plus emporté.
Moi, à titre perso, j'aurais un peu de mal. Je suis très content et très fier de ne pas encore avoir de lunettes.
Et ben voilà.
Me voir obligé de mettre des lunettes, ça me semble. Je sais pas comment je le vivrai, en tout cas. Je vais juste faire un petit commentaire en forme de clin d'œil. Et là encore, je reviens sur la partie cinéma. Rappelez-vous de Terminator. Terminator, quand il débarque sur Terre.
Le premier,
même le 2. On le voit, il y a des moments où il y a des phases de reconnaissance faciale. On voit, on change, on est dans sa tête et on voit qu'il reconnaît des gens, il reconnaît des choses avec plein d'informations ajoutées sur le côté. Donc on pourrait imaginer ce genre
d'application. Mais moi, à la limite, je reconnais pas les gens, donc je suis prêt à payer une fortune
pour qu'on me dise
voilà, c'est Frédéric Zimotel. Je le reconnais.
Mais c'est les débilos qui parlent qui au milieu de la table. Là.
Mais même la traduction instantanée.
Oui, par exemple.
Et puis tu sais, le marché est gigantesque parce que là on parle de lunettes, de fonction. Alors oui, il y a auditif si on a pour réparatrice, mais en Asie, ils ont un gros souci de vision, ils ont une forme de visage qui fait que ça appuie un peu plus sur les yeux, et beaucoup de gens ont des les myopies, enfin tout ce qu'on peut avoir comme, et là il y a le marché gigantesque,
c'est clair.
Donc là en plus sur ce côté là donc si on les rend plus intelligentes et qu'elles parlent et qu'elles répondent au téléphone et qu'elles nous guident dans la rue et tout ça,
ça va devenir notre meilleur ami. On n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, etc. Mais en tout cas, Samsung ne va pas laisser la route libre à Meta, ça c'est certain. Allez, on attaque l'automobile. Et qui arrêtera BYD, les amis? Le champion de l'électrique chinois vient tout juste de publier donc des résultats annuels records, avec un chiffre d'affaires qui dépasse pour la première fois les 100 milliards d'euros. Devant Tesla, c'est ça qui est fort. Mais plus largement, BYD menace aussi les constructeurs automobiles traditionnels. Écoutez ce reportage de Justine Vassogne et on se retrouve sur le plateau juste après.
En 2024, BYD a franchi un cap. Son chiffre d'affaires progresse de 29% en un an, son bénéfice de 34%. En bourse, le titre s'envole, plus 51% depuis janvier. L'année dernière, le constructeur a vendu un peu plus de 4 millions de véhicules, dont 1,76 million de voitures 100% électriques. C'est presque autant que Tesla. 2025 sera l'année où BYD deviendra numéro 1 de l'électrique, assure un spécialiste du secteur, quand le constructeur américain voit aujourd'hui ses ventes s'éroder sur ses principaux marchés. BYD a démarré l'année en trombe, plus de 600 000 voitures vendues depuis janvier, une progression de 93% sur un an. BYD était déjà en 2024 le sixième constructeur mondial en termes de volume, juste derrière Stellantis. Cette année, il pourrait donc encore frapper plus fort, mais doit accélérer à l'export, seulement 10% de ses ventes aujourd'hui, et contourner les obstacles dont les droits de douane imposés par Bruxelles. Pour cela, BYD construit déjà deux usines en Hongrie et en Turquie, et projette d'en ouvrir prochainement une troisième en Europe de l'Ouest.
Voilà pour la success story de BYD qui est en train de, de vraiment prendre de l'avance sur Tesla qui était il y a encore quelques mois un champion de la voiture électrique. Et encore, on n'en est qu'au début parce que BYD n'est pas véritablement arrivé en Europe. Et le jour où ils vont vraiment arriver en Europe, avec, et le Justine le disait, des usines qui vont ouvrir, ça va être terrifiant. Fred ?
On peut dire aussi que c'est effrayant parce que, en fait, BYD est un des seuls constructeurs capables de faire l'intégration verticale de tous les métiers, hein, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent totalement leur voiture. Voilà, exactement.
Alors qu'un constructeur automobile français, il en a des centaines.
Ouais, des centaines, enfin en tout cas des dizaines. Ouais, c'est dizaines. Et eux, ils maîtrisent 95% de la chaîne de la voiture, la chaîne de construction de la voiture.
Et ça, donc rien que ça, c'est assez exceptionnel. Ils maîtrisent les batteries. Hein, ils ont une filiale dédiée en fait aux batteries.
BYD a commencé par la batterie d'ailleurs. C'était leur premier métier, je crois.
Exactement.
Ouais, c'était les composants pour les batteries, tout ça. Mmh. Oui, exactement.
C'était leur première batterie. Et je ne sais pas si vous avez vu la news, parce que ça aurait pu faire l'objet d'une news encore ce soir, c'est qu'ils ont sorti une sorte d'ultra batterie où on récupère, je crois, 270 km en 5 minutes. Donc là, on change complètement d'air, on change complètement de paradigme par rapport en fait à la voiture électrique. Et ça va tout changer. Ils sont en train de tout changer. Et donc, je crains énormément pour nos marques européennes.
Ouais, ça va être difficile de s'aligner. Hein.
Ça va être difficile de s'aligner. Donc, Tesla va souffrir. Nos marques européennes vont souffrir encore plus. Alors maintenant, voilà la question. Comment? Alors, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que BYD fait à la fois de l'électrique 100%, mais ils font aussi de l'hybride. Et donc, ça, ils jouent sur tous les tableaux. Ouais. Et donc, là, c'est une déferlante. Qui va les arrêter?
On disait sur ce plateau que, avec des spécialistes auto, Chine, etc., qui disent qu'en plus, là, le jour où ils vont débarquer ici en Europe, c'est pour tuer la concurrence chinoise. Oui. Ils sont bien conscients que Stellantis, des BMW, des Mercedes, hein, tout ça, ils seront toujours là. Mais par contre, eux, ce qu'ils voudraient, c'est être les seuls, ou pratiquement les seuls chinois.
Oui, parce qu'il y a d'autres constructeurs chinois qui vont arriver.
Là, ils ont, c'est ça, ils ont 17% en Chine, donc 90% de leurs ventes, c'est en Chine. 17% des tout véhicules, les véhicules hybrides, tout ça, ils ont 17% de part de marché. Par contre, sur l'électrique, ils ont 36%. Donc, un tiers du marché pur électrique, c'est eux. Donc, il y a quand même une forte concurrence là-bas. Et eux, enfin, ce que nous disaient ces experts, c'est qu'ils veulent venir en Europe pour tuer le marché, être les seuls Chinois ou pratiquement les seuls. Et c'est vrai qu'on commence à voir, ça y est, des concessions qui arrivent. Les voitures sont plutôt pas mal. L'intérieur, enfin, vraiment, est de qualité.
Je vous rappelle qu'ils projettent en 2025 de sortir une voiture citadine à 20 000 euros. 20 000 euros, c'est vraiment pas cher, Tristan.
Oui, ils ont raison de se focaliser sur attaquer en fait les marques chinoises en Europe parce que il y a un problème et ça prend du temps, c'est la construction du réseau de concessionnaires. Et ça, pour l'avoir vécu, je le vis parce que moi, il se trouve que je suis motard et que je regarde un peu ce qui se passe. En fait, le bas de gamme sur la moto est complètement bouffé par les Chinois. Et les constructeurs européens plus luxueux voient leur prix augmenter. qui est une façon de s'éloigner en fait de du carnage qui a lieu dans le bas de gamme. Et j'imagine très très bien BYD faire quelque chose dans le même domaine, c'est-à-dire attaquer du relativement bas de gamme, en tout cas sur des prix extrêmement agressifs, parce qu'ils peuvent le faire. Mais effectivement, derrière, il y a la marque, le prestige des grands constructeurs automobiles européens et allemands en particulier, qu'il est difficile d'attaquer, parce que c'est de la marque, c'est psychologique en fait. Et on sait à quel point dans le marché automobile est statutaire. C'est-à-dire qu'en fait, on achète un SUV parce qu'il est statutaire. Et donc, s'il n'y a pas le logo BMW dessus et qu'il y a un logo chinois à la place et que la concession, elle est loin et pas dans mon quartier. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, ils ont raison de se concentrer sur la concurrence chinoise. Voilà, mais ça ne durera pas éternellement. Hein. Ils vont monter en gamme. Hein.
Bien sûr.
Donc, ils vont monter en gamme, ça c'est sûr. Ils ont déjà même des filiales qui sont spécialisées sur du haut de gamme. Donc, on va voir ça aussi. Moi, c'est pas que je déplore, mais c'est vraiment triste, c'est qu'aujourd'hui l'Europe a perdu l'avantage de l'innovation. Il avait perdu il y a 10 ans avec en laissant Tesla en tout cas débarquer l'électrique. Ils sont en train de le reperdre une deuxième fois sur l'efficacité en fait. Mais j'ai l'impression qu'on a plus complètement les armes pour se battre.
Nous, si tu veux, c'est ce qu'on a souvent dit ici. Hein. Nous, on est en train de se battre pour passer du thermique à l'électrique. Les Chinois, ils sont en train de se battre pour passer de l'électrique à la voiture connectée, intelligente, tout ça, parce qu'on n'a pas parlé d'autonomie.
Tu veux dire qu'on a une génération de retard.
Ouais, voilà, on a parlé, je ne dis pas autonomie batterie, mais c'est conduite autonome, voilà, plutôt. En Chine, ça marche, quoi. La conduite autonome, ça marche. Alors, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière le volant, mais aujourd'hui, les BYD, ils sont. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière le volant, il faut qu'il touche le volant toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, je ne sais plus, mais en tout cas, ça fonctionne. Ça aussi, hein, ils ont bien avancé dans ce domaine, ils sont en train de récolter pas mal de data, donc, oui.
Alors, BYD qui rit, et je le disais, Tesla qui pleure, rappelons-le quand même, toutes les informations sordides liées à Tesla ces derniers jours. Concession incendiée, rappel des Cybertrucks, il paraît qu'il y avait de la mauvaise colle sur la carrosserie, c'est embêtant. Et là, ils ont rappelé des dizaines de milliers de Cybertrucks. Les ventes qui sont en berne, le cours de bourse qui a été divisé par 2 depuis décembre, même s'il a un petit peu remonté, j'ai vu, en fin d'après-midi. Bref, un vent de panique, un souffle sur Tesla, à tel point qu'Elon Musk a décidé de s'adresser à l'ensemble de ses salariés ce week-end en mode pompier lors d'une réunion publique et qui a été diffusée évidemment sur X pour rassurer un peu tout le monde. On l'écoute.
Comment va notre cote de popularité ? Eh bien, nous fabriquons la voiture la plus vendue au monde, toute motorisation confondue, et pour la 2e année consécutive. Le Cybertruck est devenu le pick-up électrique le plus vendu en un instant, donc tout va bien. Mais quand vous lisez la presse, on a l'impression d'être dans Armageddon. Je ne peux pas passer devant une télévision sans voir une Tesla en feu. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends qu'on ne veuille pas acheter nos produits, mais ce n'est pas la peine de les brûler. C'est un peu déraisonnable, c'est de la folie. Arrêtez d'être fou.
Stop being psycho. Et oui, position délicate pour Elon Musk, qui défend son bébé, Tesla, mais avec derrière toutes les casseroles qui lui courent après. Et C'est compliqué. C'est-à-dire que là, ça va bien au-delà du désamour d'une voiture. C'est un désamour d'Elon Musk. Parce que Elon Musk est tellement, on va dire, il incarne tellement Tesla qu'aujourd'hui, c'est de la voiture, on s'en fout en fait. Mais c'est véritablement pour montrer le désaccord profond qu'il y a entre certains propriétaires de Tesla et celui qui a créé, en fait, ça. C'est ça le souci. Encore une fois, même en France, il y a des concessions Tesla qui ont brûlé, je crois. Okay. Donc
on a vu des stars vendre leur Tesla et se filmer en train de laisser partir la voiture sur une camionnette de remorquage. C'est sûr qu'il est devenu infréquentable pour la moitié de la population du monde, quoi. Donc, c'est vraiment devenu un boulet pour la marque. Hein. Mais il a choisi. En même temps, je trouve étonnant qu'il ne le réalise que maintenant. Et encore, peut-être qu'il ne le réalise pas, parce que là, dans l'interview qu'on vient de voir, il est complètement dans le déni. Hein.
Oui, bien sûr. Il n'a pas apporté de solution.
Non. Et rappelez-vous, il y a 10 ans. à peine 10 ans. Hein. On achetait une Tesla, on était fiers d'acheter une Tesla.
Ah oui.
Parce que c'était déjà les premiers pas pour sauver le climat.
Protéger on était cool, innovant.
C'était cool.
C'était statutaire.
C'était statutaire. Ouais, il y avait Insane Mode. Insane Mode, vous vous rappelez les premières pubs.
Ouais, ouais, ouais.
Pas des pubs d'ailleurs, c'était juste des vidéos YouTube où on faisait des tests en Insane Mode pour tester l'accélération phénoménale en fait, des Tesla. Et on protégeait la planète. Aujourd'hui, moi je vois, j'avais pas vu encore les images d'Elon Musk lors de cette retransmission. Moi je vois quelqu'un qui est apeuré. Je vois quelqu'un qui rigole jaune, et pour moi c'est complètement défensif. C'est complètement défensif. Il ne sait plus trop quoi faire pour essayer de faire en sorte que la vaisselle ne se casse pas plus. Et je pense que la descente aux enfers va continuer. Alors, heureusement qu'il y a des bonnes nouvelles. Côté X, le cours de bourse revient un peu en odeur de sainteté, mais je pense que la descente aux enfers n'est pas terminée, malheureusement, pour Tesla. Il peut revenir encore dans les grâces si l'innovation redevient au rendez-vous. Enfin, revient au rendez-vous, pardon.
Tu veux dire qu'il pourrait livrer la voiture vraiment autonome? Depuis le temps qu'il la promet, parce qu'il est toujours l'année prochaine. Bah,
carrément. Mais
après, il est confronté à des réglementations qui sont hyper strictes, hyper sévères, qui ne permettent pas de développer ça aussi vite que prévu. Mais évidemment, il est fautif aussi, parce que ça fait 10 ans qu'il nous prévoit ça, quoi.
Mais il va être obligé de faire quelque chose, mais quelque chose qui soit factuel. Et il pourra pas faire le show. Il pourra plus faire le show. Je vous rappelle que les Cybertrucks. Cybertruck, aujourd'hui, il y a des campagnes de rappel massives parce que les tôles ne tiennent pas. Parce que les tôles rouillent.
C'est quand même embêtant sur une voiture.
Pour quelque chose qui est censé être moderne, on est quand même bien loin du compte. Donc tout ça pour vous dire que je pense que sérieusement, je pense que Musk doit malheureusement passer la main. Enfin, je crois que c'est un actionnaire historique de Tesla qui l'a demandé. Et il n'y a pas de honte à cela. Il a déjà fait beaucoup de choses pour cette maison. Il faut qu'il se concentre. Soit il se concentre sur la politique, ou il se concentre sur SpaceX, ou encore il a encore beaucoup de choses à raconter. Donc ça, c'est très bien. Sur X, quelque part, il a peut-être réussi son coup. Mais voilà, sur Tesla, c'est peut-être la chose de trop qu'il a.
Oui, et puis il faut peut-être aussi un peu calmer le jeu, tout simplement. C'est vrai que là, ça, tout le monde monte un petit peu en épingle problème.
Après, on lui reproche son manque d'innovation. Hein. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas sorti un nouveau modèle? On en a déjà parlé sur ce plateau aussi, c'est que les gens se rendent compte aussi. Alors, c'est un peu général sur le marché électrique, mais en tout cas sur les Tesla, le service après-vente s'est considérablement dégradé. Oui. Et je veux venir par rapport aux gens, voulais en venir par rapport aux autres, c'est le marché de l'occasion. On se sent, je ne sais plus qui c'était, Jean Schmitt qui était ici l'autre jour chez Jolt Capital, qui disait tout le monde a acheté le modèle 3 ensemble. Donc aujourd'hui, toutes ces voitures-là arrivent globalement à un kilométrage identique, elles arrivent sur le marché de l'occasion. Et on voit les décotes de l'occasion, hein, je crois qu'on avait parlé ici, elles sont assez fortes. Hein,
oui, et puis ils ont baissé les prix, en plus, à un moment, ce qui fait que les modèles d'occasion ne se vendaient plus, parce qu'avec la baisse de prix...
Et puis, la concurrence, quoi. C'est vrai qu'il y a 10 ans, ils sont arrivés, c'était cool, c'était bien. Tout le monde se... moi, je me souviens, je faisais toujours ce parallèle entre les journalistes de la tech qui disaient « Ah, la voiture, c'est grand luxe, machin. » Oui, les journalistes de la tech, ils ne montent jamais dans les voitures de luxe,
non.
Les journalistes de la tech. Alors que les journalistes automobiles, ils étaient en train de décrier. Alors, les gens disaient « Oui, mais journalistes auto, c'est parce qu'on leur prend... » Non, les journalistes auto, ils sont habitués de voir le luxe des Range Rover, des Mercedes, des BMW, des Audi, je ne sais quoi. Ils disaient « Ouais, c'est bien, mais il y a quand même une différence. » Et quand on voit aujourd'hui la qualité d'un BYD, enfin, aller faire un tour, aller voir l'intérieur, on les a vus au Mondial de l'Auto, on se dit « Flûte, c'est quand même... » Il y a pas mal de choses qui changent. On en parlait hors micro tout à l'heure. Il y a le côté tactile, d'avoir l'écran tactile sur le côté, ça plaît de moins en moins. Les gens voudraient... Enfin, voilà, on attend une rupture un peu chez... Alors, elle viendra peut-être et ça relancera encore le monde, mais... voilà, et puis oui, il est beaucoup ailleurs, il est moins dans l'entreprise, c'était quand même lui qui donnait un peu l'élan, et même en interne, on imagine des salariés, parce qu'ils ont leurs frères, leurs beaux-frères qui sont dans des ministères, qui perdent leur job, ils disent bah ouais, c'est plus très cool de
passer le déjeuner dominical doit être un peu spécial en ce moment au Texas. Allez, on poursuit, on termine ce Tech & Co, ce débrief avec Google et Gemini, vous savez, qui est, on va dire, le
son IA.
Voilà, il y a diverses briques, en fait. Gemini, c'est diverses briques d'intelligence artificielle générative que Google héberge, puisque c'est Google qui les a créées. Et là, donc, Gemini arrive avec de nouvelles fonctions vidéo qui ont été déployées en temps réel et qui fonctionnent avec l'IA, Fred, je crois.
Absolument, ça fonctionne avec l'IA et je trouve que là, on est en train d'assister, là aussi, à un petit coup de stratégie. Enfin, c'est du jeu de Go chez Google, parce qu'on a décrié en fait la stratégie d'intelligence artificielle de Google, parce qu'ils ont démarré en retard, ils se sont fait surprendre par OpenAI.
Ils avaient Vertex, ils avaient, plusieurs produits.
Et on savait pas trop bien où ils allaient, dans quelle direction ils allaient. Et on voit, moi, je trouve que semaine après semaine, mois après mois, ils sont en train impatiemment de construire leur stratégie et ils sentent que sur la partie search, recherche, ils sont un petit peu attaqués, on l'a vu tout à l'heure, par Perplexity. Donc ils sont en train tout doucement de rajouter des fonctionnalités Gemini. Et là, Gemini Live, donc on ajoute de la vidéo, hein, et on est capable maintenant, d'après les premières démos, de pouvoir filmer en fait là aussi un environnement et
d'avoir en temps réel le descriptif de
l'environnement. D'avoir en temps réel le descriptif de l'environnement et il n'y a plus besoin de taper quoi que ce soit, ça interagit tout de suite. On est par exemple en train de refaire en fait une chambre ou son intérieur. Hop, on n'a plus qu'à filmer l'intérieur et tout de suite ça propose des choses. Automatiquement, on a son décorateur d'intérieur tout de suite dans la poche qui fonctionne. Et je pense que c'est là aussi la convergence en fait de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le multimodal dans l'intelligence artificielle, et je pense que ça va être là aussi la prochaine frontière. C'est-à-dire que on n'a pas tout vu en fait sur ce que peut l'intelligence artificielle et les modes d'interaction qu'on va avoir.
Qui veut enchaîner là-dessus? Il nous reste une minute, Tristan.
Ben c'est incroyable ce qui se prépare, ça part dans tous les sens. C'est très difficile à dire. Je suis content de voir que Google s'en sort quand même, parce qu'effectivement ils étaient pas bien partis. J'espère qu'Apple fera aussi bien aussi, parce que eux, ils m'inquiètent un peu de ce point de vue-là.
Ouais, c'est clair.
Cette transition de l'IA, elle est pas facile pour les acteurs établis.
Fred, un mot là-dessus pour terminer.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit qu'il y a, ils sont tous. Mais ce qu'on avait déjà dit quand ChatGPT était sorti, ils avancent tous par à-coups. Ils sont tous à fond dans la course. Hein, peut-être qu'Apple est derrière. On imagine qu'ils vont sans doute rattraper un jour. Mais voilà, on a vraiment cette bataille. Donc on a l'Anthropic, le Gemini, l'OpenAI. Quand il y en a qui repart, et bien l'autre arrive avec une nouvelle fonction. Là il est temps que Google se réveille quand même sérieusement et une vraie stratégie claire pour Google. On l'a pour Microsoft, on l'a pour OpenAI, on l'aura peut-être pour Perplexity, pour d'autres, on l'a pour Mistral aussi, on voit comment ils avancent. Google, c'est un peu plus flou. Voilà, ils ont des outils un peu partout et on a du mal à voir un peu la cohérence un peu de l'ensemble.
Et ce sera le mot de la fin. Fred, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Tristan.
Avec plaisir.
Tristan Nito, associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Merci à Frédéric Krebs. Je prends ma respiration. Président Hacker Krebs Advisory et ex-partner Newfound. Ça va? Je me suis bien sorti. Et merci à Fred Sibotel. Bien évidemment, journaliste maison à BFM Business. Vous restez avec nous. La petite pause qui va bien. Et on retrouvera Léa Benaïm pour le Tech Flash. Et puis aussi une boîte française qui cartonne actuellement. Il s'agit de Unit Image, qui excelle en fait dans l'animation 3D. C'est eux qui ont fait les effets spéciaux de The Substance. Vous savez, ce film avec Demi Moore qui est impressionnant. Et puis, on ira un petit peu dans les airs, découvrir des constellations de satellites qui justement permettent de mesurer la qualité de l'air. Forcément, ça nous séduit, ça nous interpelle. On en parlera tout à l'heure. Vous restez avec nous. Dans un instant, je le disais, Léa Benaïm pour le Tech Flash. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.